spectaculaire commence. Enfin, 14h02, pas trop de retard pour aujourd'hui, émission numéro 174. Christophe Rollin au micro. Gérald est là. Ouais, super, il est de retour. Et puis, nous sommes en fort bonne compagnie. Un artiste qui nous arrive tout droit d'Angleterre, mais cela fait longtemps qu'il est à Lyon. John Salter. On prononcera peut-être à la française pendant l'émission John Salter, S-A-L-T-E-R. Il a un site internet dont je ne peux que vous dire beaucoup de bien. Mais ce qu'on va faire pendant l'émission, c'est l'écouter parler. Vous allez voir, ça va être très intéressant parce qu'il est exposé actuellement. Et puis... un renom tout de même, hein. Harry Belay, critique au Monde, en a parlé il y a de cela quelques années pour une exposition. Enfin bref, vraiment, le site est très bien fait, vous verrez tout un tas de choses et surtout vous pourrez écouter notre auditeur. Et vous allez même pouvoir commencer tout de suite par écouter ses excellents goûts musicaux. Commençons avec du Bach, une cantate. La cantate BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben, la parte prima, le tout début, c'est le cœur. Pourquoi ce choix? Bien, nous questionnons notre invité dans quelques instants, une fois que nous aurons que cette musique aura retenti. Pour l'instant, sachez que vous écoutez Radio Canu sur le 102.9 de la bande FM à Lyon, c'est très bien. Ou bien vous le faites également sur le site radiocanu.org. Je termine en annonçant la date, c'est toujours très bien, mercredi 10 octobre 2018, 14h03, il est temps de commencer avec du Bach. Nous sommes jusqu'à 15h, comme tous les mercredis.
Bonjour à toutes et à tous.
Le CD que nous a amené notre invité John Salter, qui fêtera ses 83 ans bientôt, je crois. On reparlera de sa biographie dans quelques instants. Il l'a sans doute trop écouté parce qu'il sautait un peu. Ça ne vous aura pas échappé. Ce n'est pas très grave. Il y en a encore plein d'autres à écouter qu'il a amené, qui rythme un peu sa biographie au fil des âges et des périodes et des années. Mais ce qu'on a oublié de préciser, c'est que ce soir, donc, notre invité expose une douzaine de dessins dans le cadre du Salon de dessin contemporain à Lyon, qui se tient bientôt, Paper Art, depuis quelques années maintenant. C'est du 10 au 14 octobre 2018, Palais de Bondy, sur les quais de Saône, le grand palais qu'on appelle aussi la salle Molière, il me semble.
Oui.
Aussi des concerts.
Oui.
Donc le vernissage public est tout à l'heure, à 18h, de 18h à 21h, allez-y. Vous aurez la chance de découvrir, en plus de notre invité du jour, dont on reparlera bientôt toute l'émission qui est consacrée, il y aura une soixantaine d'artistes, dont je vais vous égrener rapidement les noms avant d'attaquer le morceau, c'est-à-dire l'œuvre peinte et dessinée de Monsieur Salter. 70 artistes, donc Paper Art, ce sont des dessinateurs. Alors nous avons, rapidement, hein, Françoise Alex, Natacha Baluto, Basset Aubonnet, Bauer, je vais donner que les patronymes, Bertoin, Besson-Girard, Bidot, Bora Lévy, Bossu, Boulier, Bruno, Célarier, Célière, Chevalier, Chronopoulou Roux, Colovray, Compagnon, Cotalorda, Courtois Lacoste, Xuja, Del Mambo, Del Rosario, Desmélis, Deroux, Descombes, Desmé, Desvignaux, Diaz-Sébalos, Doud Ducret, Eva Ducret qui avait remporté, il me semble, un prix l'année dernière, mais je ne suis pas sûr, Duprilot, El Louco, Aimardu Vernet, Fabron, Germain, Gevray, Gilbert, Gris Graber, Guyet, Jarousse, qui a eu le prix du public l'année dernière, qui est assez connu à Lyon, Julien, qu'on invitera peut-être un jour, Julien Clément, Lemont, Lecoq, Le Goubin, Luciani, Françoise et Pascal, Lurton, Margot, Marie et Agnès, qui était peut-être déjà venue ou qui viendra un jour, Mathieu Banville, Mafteyev, Mello, Ménesson, Meyer et Verte, Montalbano, Moreau, Moscona, Noisy-Faucon, Papazian, Paris, Paubel, Piperino, Poupeville, qui est connu aussi, hein, Rang, Ravo, Richard, Rousselet, Salmi, Solter, John, en fin de liste, Soriano, Chouadjian et Ulrichs. Alors c'est un peu laborieux, mais je me devais de donner la liste des artistes que vous pourrez découvrir ce soir. Et dépêchez-vous, parce que ça dure que 4 jours, hein, pour voir dans des œuvres sur papier, autour du papier, qui sont avant tout des dessins. Mais revenons à notre invité.
Allez,
bonjour monsieur John Sutter, maintenant on vous écoute.
Bonjour.
Pourquoi cette chanson de Bach?
Bon, cette chanson de Bach était un de mes premiers orgasmes esthétiques.
On commence comme ça là,
directement. Ça commence
fort. Voilà, j'avais 9 ou 10 ans à l'époque, c'était vers la fin de la guerre, deuxième guerre mondiale. Mm-hmm. Ma famille était d'origine allemande. Mon père était venu, son famille était venue début du 19e, ma mère début du 20e. Et dans la famille, ses traditions étaient d'aller à l'église allemande, à Whitechapel, à Londres, chaque premier dimanche de moi. Donc, j'étais là une fois, et l'église allemande, quand même, était bombée par M. Hitler, et il n'y avait pas de toit, mais le chœur faisait une répétition quand même. Et je ne connaissais pas cette musique à l'époque. J'étais étonné par sa beauté. Maintenant, je reconnais que c'était cela que je viens d'entendre. Donc, ça, c'était un grand moment. Grand moment de mon enfance. Mm-hmm. Mais autrement, dans les guerres, où j'ai dormi dans un cage en acier, dans le salon avec mon frère jumeau, pour nous protéger si la maison tombait. Et un autre moment qui était vraiment esthétique, c'est, j'avais 2-3 ans, je crois. Et on allait à la mer. Et j'étais dans le jardin. Et il y a un grand soleil, tout bleuté, tout flou. Mm-hmm. Parce qu'en Angleterre, si c'est un beau jour, ça commence avec une brume.
Hey.
Donc, j'étais là, regardant ça, devant une sorte de bassin pour les oiseaux. Et j'avais une sensation tellement heureux que c'était très difficile. Bon.
Deux chocs esthétiques, donc un musical et un visuel, on va dire.
Un visuel, d'accord.
Et les deux se sont réconciliés.
Oui, oui.
Et vous avez après creusé ces orgasmes esthétiques, alors. Vous avez déployé ça ou essayé de les retrouver toute votre vie.
Oui, oui, je ne sais pas quand je commence à dessiner, peindre, mais j'étais déjà là, le début de la guerre, 5 ans, donc.
Eh oui.
Donc, c'est. Bon, c'était la meilleure partie de mon enfance.
Même pendant la guerre avec les VD qu'on balançait sur
le vers la fin. Oui. Après, j'étais chez les jésuites, quoi.
Vous avez fait vos études chez les jésuites. Et vous avez fait une école d'art. Où vous avez appris dans des ateliers ou de manière autodidacte?
Non. J'étais dans cette collège jésuite, j'étais complètement nul, ils m'ont battu tous les semaines pour m'encourager, mais ça, rien. Mm-hmm. En effet, ça m'a laissé complètement dehors de la religion. Mm-hmm. James Joyce avait la même expérience, il avait dit après que les piqûres jésuites est rentré dans le sens inverse. Donc, comme j'étais en l'équivalent de troisième à l'époque, j'avais 16 ans. Ils ont décidé qu'il n'y avait aucune espérance pour moi. Je ne voulais pas être docteur ou prêtre ou avocat, quelque chose comme ça. Donc, comme je voulais faire la peinture, ils décidaient que finalement, je dois aller aux Beaux-Arts pour respectabilité, parce qu'on ne pouvait pas avoir un fils des bourgeois qui ne faisait pas des études quelconques, quoi, donc. Et là, j'ai passé 5 bonnes années, et là, j'ai pris comme c'était d'être un artiste. La première chose que le principal a dit était que, bon, d'être un bon artiste, c'est 5% de talent, 95% de travail dur. Mm-hmm. Donc, pendant toutes les années, au moins 3 heures, peut-être parfois 6 heures de dessin, de nu, dans l'atelier, et qui m'ennuie parfois, il faut admettre. Mm-hmm. Et après les premières 2 années, on était permis de toucher des pinceaux.
Ah oui, très très bien. L'enseignement classique est très, très, très dur. Hein.
Au départ, oui, oui. C'est vous qui posiez. Vous posiez nu, c'est ça?
Non, non,
ah, non, non. C'était observation, alors c'était...
Dessin de modèle vivant.
Ah, dessin, ah d'accord.
Dessin,
oui. Oui, 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 nature morte, paysage, dans la pure tradition.
D'accord, dessin.
Oui, oui, on faisait...
Au crayon, c'est ça?
Oui, tout d'architecture aussi, tout d'anatomie, toutes ces choses. Mais on n'était pas permis d'être peintre avant qu'on avait fait les premières 2 ans de dur, donc.
Les 2 premières années. Ouais. Auditeur, vous aurez reconnu cette première partie d'émission. Je ne sais pas, Gérald, si nous l'avons dit, mais bon, cela fait 174 fois que nous procédons ainsi. Un portrait de notre invité pour commencer. Terme de peinture, d'ailleurs, le portrait brosse de lui-même, notre invité brosse de lui-même un portrait, et puis ensuite peut-être nous évoquerons très, très précisément bien le vernissage de ce soir avec les œuvres exposées. Vous avez plusieurs œuvres, je crois, tu parlais, Gérald, de
vous venez d'accrocher des dessins, là, à l'instant. Hein.
Oui, je les ai accrochés hier, il y a 11 dessins.
Donc on essaiera...
J'ai quoi, 4 mètres de large et 2 mètres de haut.
Des dessins récents.
J'ai rempli, oui.
Des dessins récents.
Oui, plutôt récents, oui, mais à l'époque, je suis en train de faire un concours à Paris, donc il fallait diviser mes dessins en 2. Et on verra pour Paris après.
Alors, c'est intéressant ça, parce que mine de rien, une sorte de boucle qui se fait. Vous êtes en train de parler de vos premiers pas artistiques, enfin, je ne sais pas comment nommer cela, votre.
L'apprentissage.
Vos débuts, l'apprentissage. Et donc, précisément, c'est ce que vous nous dites à l'instant, vous commencez par du dessin. Et là, ce que vous faites actuellement, c'est également du dessin. Entre temps, oui, il y aura eu un peu de peinture, puis même il y aura eu aussi une longue pause, hein, j'ai cru comprendre. Un long hiatus entre quoi, les années 70 à 2000, je crois, où vous ne touchez pas un pinceau. Mais alors justement, il faut arriver à cette période. Là, chronologiquement, nous sommes aux années 50. Est-ce dans les années 50 que vous écoutez un peu de King Oliver's Creole Jazz Band, Deeper Mouth Blues? Est-ce qu'on l'écoute maintenant ou encore un peu après?
Oui, on peut faire maintenant. Ça, c'est quand j'étais étudiant.
Ah, les années des Beaux-Arts.
Il y avait la petite bande de jazz dans l'école de Beaux-Arts. Et on est sorti à Londres dans les jazz clubs tous les week-ends. Donc.
Donc cet extrait, c'est bien le Deeper Mouth Blues, King Oliver's Creole Jazz Band. On imagine qu'on est en 50, 55 à peu près, c'est ça?
Non, ça doit être les années 60.
Les années, vous dites?
Ah oui, d'accord.
Mais pour vous l'écoutez dans les années 50 à Londres?
Oh, des années 50, oui.
Mais c'est très bien. Thank you.
sommes dans les années 30 et en même temps dans les années 50 pendant que notre invité finit ou parcourt ses études de beaux-arts où il apprend à dessiner de manière vraiment très rude, de manière tout à fait classique. Vasari disait que le dessin était le père des trois arts, architecture, sculpture, peinture, et on est dans cette tradition-là où il faut avoir une connaissance parfaite. À l'époque, on faisait encore des cours d'anatomie, etc. Et tout ça va irriguer l'œuvre de notre invité, John Salter. Je vous renvoie au site qui est déjà déposé sur le blog. Le titre, c'est John Salter peintre, parce que, évidemment, pas de peinture sans dessin. Au bout de deux ans, on se met à la peinture. Et on voit dans toutes ces peintures, on voit déjà des dessins. Il y a des nus, des études de nus, avec un trait, justement, incisif, précis, anatomique. On voit la science du dessin. C'est une science comme une autre. Et on le sent, parce que ça va irriguer la totalité des œuvres. Et à un moment, ça vrille, parce qu'on est dans une esthétique réaliste. Dans la tradition des Michel-Ange, des maniéristes, qui sont cités souvent, il y a un art de la citation, de Titien, du Caravage, et puis il y a quelque chose qui va vriller, on le voit dans la peinture, en termes de palette, de couleurs, et puis surtout de thématiques, parce que les sujets des allégories, des sujets d'inspiration, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet, et ben c'est des sujets d'actualité, c'est des thèmes qui sont assez sinistres en général. Allez, qui parlent de notre monde apocalyptique.
Laissons donc notre invité John Salter continuer à se présenter à travers un petit portrait musical, on pourrait dire, puisque tu as indiqué à l'instant, Gérald, les années 20, c'était la New Orleans, années 20, années 30. Les années 50 aussi, c'est donc l'école des beaux-arts. Vous y passez 5 ans, 6 ans, le cursus, ça marche comment dans ces années?
C'était 5 ans.
5 ans
là, oui, oui.
Et pas un bon souvenir, si, parce que vous parliez de la petite enfance.
Très bon souvenir.
Ah, quand
c'est
même.
Là,
ah, là
que
aussi.
J'ai commencé à apprendre le monde, qu'est-ce que c'était, parce que mon enfance était dans un prisme puritanique de catholicisme petit bourgeois.
Puritanisme.
Paf, clac, voilà.
Plus les châtiments corporels des jésuites.
Ça, c'est fait, oui. Voilà, très bien.
Donc, c'était qu'au Beaux-Arts, j'ai appris que des choses comme les homosexuels existaient et ils n'étaient pas méprisés par ces artistes. Même que pour moi, c'était l'horreur, c'était la chose à côté de la meurtre. Mm-hmm. Je me rappelle un petit truc dans le catéchisme qui disait qu'il y a trois péchés qui vous damnent en enfer. Mm. Le premier, c'était pas mal, c'était de voler le salaire d'un bon travailleur. Le deuxième était le meurtre. Le troisième était la sodomie.
Ah, oui. Boum, leçon du catéchisme, c'est très très bien. Années 50, vous en sortez tout de même des années 50. Oui, vous arrivez aux années 60, ouf, ça.
Oui, les années 50, c'était Swinging London, ça s'appelait à l'époque. Et c'était vraiment une expérience qui était tellement différente de le bagnon de Tsingfu, l'église catholique, que j'ai essayé d'essayer tout, exprimer tout, faire tout. Et à l'époque, il y avait le pop art qui était...
Comment c'est? Qui est anglais à l'origine, avant d'être américain.
Oui, oui, avec les gens comme David Hockney, qui est maintenant le plus célèbre artiste de l'Angleterre. Mm-hmm. Et... oui, je m'appelle, je connais un peu David Hockney, mais j'ai perdu mon chance de devenir un peintre célèbre, parce que il y a un jour que j'étais avec mon porte-design, peinture et tout ça, visiter des galeries, et j'ai vu David Hockney avec... autour de tous ces petits gens qui voulaient faire le lèche-cul avec lui. Et il me regardait, il me donnait l'œil, et j'ai pensé, est-ce que je vais vendre mon corps pour devenir célèbre ou non? J'étais déjà toujours trop catholique, donc je n'ai pas assez bas.
Ah. Succès non garanti, en plus. Succès non garanti.
On a une petite illustration musicale, Gérald. On la place, Chubby Checker pour Let's
un petit morceau, parce que...
Let's Twist Again.
Oui, mais
c'est intéressant quand même.
Dans cette langue de vie et carrière. Attends,
tout de même,
faire
un portrait radiophonique d'un invité qui est peintre par de la musique, c'est super. Donc, Chubby Checker, un petit peu. Et puis, on poursuit pour les années 70. On va y arriver.
Ouais. Et la révolution sexuelle.
Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good.
des années 60, Plus Tegan, version originale,
oui, oui.
Alors
oui, oui, Chubby Checker, c'était une fille qui partage chez mon appart à l'époque, qui était une Américaine, et qui est revenue d'une vacance en Amérique avec cette Chubby Checker.
Mm-hmm. Et, en tube de l'époque.
Et wow, sur quelques semaines, ça passait par Londres, mm-hmm. et tout le monde twistait.
Et après ça passait en France, et puis on avait la version française.
Oui, oui, oui.
Les Chats Sauvages, ou de je ne sais quel yéyé, rocker.
Oui. Mais le grand musique à l'époque, c'était les Beatles, bien sûr.
Ah, mais il y en aura, je crois, juste un peu après. Ah. Il n'est pas encore 14h30, c'est magnifique. Donc notre invité, John Salter, hein, à la française, ça fait quand même longtemps que vous êtes en France, hein, je crois.
Depuis 81, oui.
Oui, donc on peut... Donc notre invité peintre est en train de brosser ses premières années, ses jeunes années. Quoique non, là on arrive une vingtaine d'années.
Aux années 60-70.
Les années 60.
Alors vous essayez de...
Vous en prie, John.
Alors, ratez votre rencontre avec David Hockney et vous démarchez dans les galeries.
Qui s'est dessiné tout de même. Lui, c'est l'un des derniers qui s'est dessiné.
Alors, vous faites quoi? Vous voulez faire artiste?
Ouais, j'ai fait ces artistes à Londres et tout le monde faisait la fête toutes les années 60. Et fin des années 60, il y avait moins et moins de ces jeunes hommes, jeunes filles qui étaient là pour faire la fête. Et ceux qui étaient toujours là étaient plutôt des sous-là. Donc, ouais. J'ai commencé à demander ce que je faisais là. J'ai peint tout le temps, mais j'ai trouvé que ce que je faisais commençait d'être ringard.
Ah.
Donc, j'ai décidé de changer de voie et je suis allé à l'université de Bristol pour étudier la sociologie de l'éducation. À l'époque, l'Angleterre était toujours assez sociale et si on avait une bonne histoire comme professeur, parce que j'étais prof de dessin en mi-temps à cette époque. On pouvait refaire des études plus tard, et ignore si on avait le baccalauréat équivalent ou non. On a été accepté sur son dossier.
Oui, ça c'est une grande différence. C'est pas le diplôme qui fait tout, comme en France.
Oui, oui.
On peut...
Mais Bristol est le... Faculté d'éducation était où il y avait deux ou trois bonnes facultés d'éducation en Angleterre. Le premier, c'était peut-être Londres. Après, c'était Bristol. Après, Leicester. Donc, d'être admis là-dedans, wow, c'était peut-être aidé par un copain qui, plus tard, est devenu principal de l'université de St. Andrews, où Prince Harry a fait ses études. Mais poussé un peu. Donc, j'étais accepté là, et je faisais deux ans là. Je faisais un master's in education, sociology, sociolinguistique. Et après, j'étais maître de conférence dans un IOFM, ou l'équivalent en Angleterre.
Pour former les futurs enseignants et professeurs des écoles, on dirait.
Mais à cette époque, arrivait Margaret Thatcher. Ouais,
qui a tout cassé.
Qui a tout cassé, parce que elle décidait, on avait trop de professeurs pour commencer, donc, et elle allait fermer un tiers des IOFM. Et surtout, elle ne voulait pas des sociologues parce qu'ils étaient mauvais pour la morale des professeurs. Donc, j'étais offert une sortie, et avec le prix de cette sortie et la vente de ma maison, je suis venu en France. Et
vous avez tout largué,
Thatcher,
la maison, et vous êtes exilé en France.
Oui, oui. Et surtout, j'avais largué à l'époque... Le peinture, parce que c'était le conceptualisme qui était censuré à ce moment-là, et le monde là est devenu un bande de petits prétentieux qui ne savaient pas quoi faire autrement de se branler dans l'esthétique.
Oui, il n'y avait rien à voir.
Oui, oui.
Bon, c'est un courant qui a son importance dans l'histoire de l'art, mais c'est vrai que ça peut être très ennuyeux.
Donc,
et il y avait des bons et des meilleurs, enfin des bons et des moins bons, c'est sûr.
Oui, oui, oui. Et je suis venu en France et j'ai ouvert un salon de thé.
Ah ouais.
À Lyon, ici,
à Saint-Jean.
Pour le tea time.
Dans la rue Saint-Jean. Et ça a duré 7-8 ans, je crois. À la fin, j'en avais marre parce que ce qui n'était pris par les impôts était pris par les serveuses. Donc, je travaille 72 heures par semaine pour à peu près un peu moins de le SMIC. Ah, donc, à la fin, j'ai vendu et je suis échappé.
Ça a duré combien de temps, ce salon de thé?
7-8 ans.
Oui, 8 ans. Et donc, j'ai sorti, j'ai trouvé l'université Lyon 3 et Lyon 1. Et prendre les Anglais, un peu diplômés pour enseigner l'anglais avec les étudiants, surtout dans le fac de loi et tout ça.
De loi.
Et donc, j'étais accepté là. Pendant ces années, j'avais appris un peu le français. Donc, j'ai décidé de revenir dans les lycées parce que c'était ennuyeux avec ces gosses adolescents qui ne voulaient pas faire l'anglais.
Ah, misère. Est-ce que ça existe, ça?
Et donc, j'ai fait une maîtrise en français, une maîtrise d'histoire en français. Donc, après ça, je suis devenu...
Et toutes ces années, excusez-moi, je vous interromps comme ça une courte seconde, toutes ces années sans peinture, sans art. Vous ne peignez plus, vous ne dessinez plus. Ou disons, vous ne produisez plus pour le grand public.
Ouais, enfin, je sais l'écriture un peu, mais la peinture, je laisse tomber. Mais j'ai vu en 90-92 qu'il y avait peut-être un petit retour de figurativisme.
C'est ces années-là, oui.
Oui. Et donc, j'ai commencé de refaire un peu de peinture, mais comme j'ai enseigné plein de temps avec un lycée, le Saint-Pierre à Bourg-en-Bresse.
Vous étiez déjà parti dans l'Ain, vous installé dans l'Ain peut-être?
Oui, au début j'étais avec l'antenne, ou qu'est-ce qu'il s'appelle là, Bellevue, sur le quai là-bas, l'autre côté de Saint-Jean. J'étais là 3 ans. Après, ma femme avait passé sa CAPES, donc elle était envoyée à Bourg-en-Bresse.
Et vous l'avez suivie.
Et...
Ah, ça c'est beau ça, ça c'est bien.
professeur de quoi, votre femme? Elle était professeure de?
Anglais.
D'anglais?
Oui.
Bien sûr.
Et vous, histoire
géographique? Parce que je l'ai rencontrée en Angleterre, quand j'étais prof là-bas, et elle était l'assistante, et...
Eh oui.
On s'est formé un couple, on avait 2 gosses. Donc...
Les joies de l'éducation nationale.
Oui.
vous enseignez donc pendant quelques années dans l'Ain, tu as dit Gérald.
Oui, oui.
Un peu d'anglais ou je me suis laissé
dire,
je pensais sur votre site.
J'étais dans une section européenne de ce lycée où j'ai enseigné l'histoire française en anglais.
Ah, voilà, j'ai
Et aussi en français. Parce que 54e, oui, 6e, 4e, 5e, j'ai coupé les cours un peu pour enseigner tous en anglais, mais arrive 3e, il doit faire l'examen à la fin, je commence à faire plus en plus en français, pour qu'il puisse prendre le vocabulaire français aussi que le vocabulaire anglais, donc... Ah, ça, c'était bien, c'était pas mal. Mais à la fin, ça commence d'être un peu libéral. Ceux qui comptaient, étaient les parents contents ou non, plutôt que est-ce qu'on donne une bonne éducation, donc.
C'était la libéralisation de l'éducation nationale. Donc, ayant vu Thatcher, le même modèle commençait à se répandre dans toute l'Europe.
Je suis échappé, Margaret Thatcher, de me refaire avec ça encore plus tard, oui.
Quelle illustration musicale pourrions-nous trouver? Moi, j'ai mis les Beatles, mais c'est encore d'actualité. Parce que là, on a quitté les années 60, on a quitté
Passé dans les années 90. On va reparler de ce retour à la peinture, à la figuration, avec, c'est vrai qu'une réaction dans les années 90-94, où une série de critiques d'art, comme Jean Clair, comme Domecq, plein de gens qui sont passés pour des réactionnaires, ont dit stop, il y en a marre du n'importe quoi en art.
Oui.
C'était lié à une bulle spéculative en plus du marché de l'art. Et ils ont dit, il faut revenir à la peinture, on a le droit de savoir dessiner, on a le droit de dessiner, de refaire de la peinture n'est pas morte. oui. pour lutter contre une forme de pompirisme, d'académisme, d'art contemporain qui devenait un peu sclérosant, sclérosé et ridicule.
Beaucoup à récupérer parce que
voilà, et puis récupérer,
dans
et puis
le Beaux-Arts de Lyon, il n'enseignait plus le design ni la peinture.
C'est ça, voilà. C'était quand même, on est arrivé, c'est comme si en conservatoire de musique, on n'aurait plus appris l'orchestration, le solfège les bases de ce qui est censé être une forme artistique à part entière. Ouais.
Oh, mais comme un physicien atomique sans une éducation.
Voilà, sans aucune base mathématique ou physique. Oui. C'est ça le paradoxe.
Alors, est-ce que ça pourrait être lié ? Non, je ne regrette rien. Ce n'est pas vous,
ça,
John, qui parlez. C'est pour la toute fin. Vous ne regrettez rien, mais très bien. Parce que moi, je pensais saluer vos années françaises de cette manière. Et est-ce qu'on écouterait... Oui, Gérald, tu as tout à fait raison. Pour accueillir Elena Brugo, on va écouter Jarouski, peut-être ? Ou la messe de... Vous aviez prévu également... une messe où l'ai-je mis celui-ci, la messe de Handel,
Haydn. Nelson Master Haydn.
Est-ce qu'on écoute cette messe, tout ça?
La messe ou les Beatles? Oh, les Beatles.
On met les Beatles. Tout est possible.
J'ai choisi une pièce là pour les Beatles, un de ces derniers là.
Oui, c'est de moi à vous, c'est ça, je crois. Donc, comment c'est formulé? From me to you, il me semble.
Non, c'est pas from me to you.
C'est pas from me to you.
Regarde le papier, j'ai marqué
oui,
le numéro.
Oui, mais il me semblait bien, effectivement, il était indiqué sur les Beatles. C'était ce titre-là. Moi, je vois from me to you. Non, un autre, le number two.
Juste en bas.
Juste plus bas, qu'est-ce qu'il y a? Let it be. Qu'est-ce qu'il y a? Penny Lane. All you need is love. Hello, goodbye. Lady Madonna. Yesterday, help. Ticket to ride. I feel fine. I want to hold your hand, can't be me love, can't buy me love, ah, there's night. Gérald, allez, vas-y, aide-moi, Gérald, attrape deux, donc. Hein. Gérald, mon Dieu, tu nous aides pas, il est pas diligent, c'est ce camarade-là. Bon, bonjour Elena, auditeur, vous avez, vous
pourriez...
Let it be, oui, forcément, donc écoutons, let it be.
C'est une forme de messe, finalement.
Le temps de dire très solennellement, on va accueillir Elena Brugo, artiste déjà venue auparavant, et puis on va entrer ensuite à 14h36, il sera temps d'être plus dans le, tu disais Gérald tout à l'heure, dans le vif du sujet. Donc nous sommes sur Let It Be, le temps que je l'attrape, et puis après Gérald, on évoque, tu nous as indiqué le lieu, oui, la salle Molière, tu as dit,
c'est tout indiqué, par contre on va un peu parler quand même de la peinture.
Il faudra évoquer
Monsieur Salter.
Ah bah oui, sa peinture.
Nous avons deux monstres sacrés de la peinture figurative ici, quelle chance dans les studios, il faut en profiter.
Eh bien, je ne peux que dire cela, que cela soit, et donc c'est-à-dire, me semble-t-il, Let It Be, chanté par les Beatles. Thank you.
Et on enchaîne. On passe de John Lennon avec Pablo Picasso, qui a eu cette formule que vous mettez en exergue de votre site.
Un autre John, hein, John Salter, qui est notre invité.
Voilà. À la place du curriculum vitae, pour commencer ce pseudo-curriculum vitae, vous citez Picasso. Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. Donc, est-ce que vous pourriez commenter quel est votre ennemi ou commencer cette phrase?
Oui, mon ennemi, c'est le puritanisme et la cupidité. Donc, ce qui est important pour moi là, c'est dans l'idée que le vrai artiste a un engagement. Si on regarde, par exemple, la Renaissance, Michel-Ange, il y avait deux engagements là. Il était très convaincu comme chrétien, mais il était plutôt hérétique et il était homosexuel. Mmh. Et il prêchait ces choses-là dans la façon qu'il faisait ses peintures. Dans la Sixtine Chapelle, par exemple, on peut voir tous ces petits ignudis, des jolis jeunes hommes qui célébraient la beauté de l'humanité. Mmh. Et aussi, il y avait le Christ en gloire, là, qui condamnait les pécheurs en bas et tout ça. Mais c'est intéressant là que c'était un pape immédiatement après la mort de Michel-Ange qui a ordonné qu'on mettait les petits pantis, les bouts de drap sur les culs des nus, donc.
Oui, après, on a demandé à un peintre après
de
couvrir toutes ces nudités.
Oui, oui, c'est pour
50 ans après, 30 ans après, je crois.
Pour sanitiser les peintures. Voilà,
En respectant la phrase de Molière dans Tartuffe, cacher ce sein.
Je ne saurais voir.
Oui, mais quand arrivent les peintures en français, par exemple, si on prend Delacroix, les bouteilles. Guidant le peuple, ça c'est un engagement magnifique, une écriture sur la société à 100 ans, où c'était la naissance des bourgeois, ça c'était à cette époque. Et Géricault, en même temps, il faisait le radeau de la Méduse. Là, c'est plutôt symbolique. Pour lui, il était conservateur à droite, plutôt avec Hegel que Marx, et là, il sort le monde en détresse.
Vous l'avez cité d'ailleurs, le radeau de la Fidence.
Oui. Et donc, il fait cette peinture parce qu'il voulait que le monde revienne sur un meilleur monde, où la révolution est terminée, où les exécutions sont terminées. Mais pour lui, c'était une solution right-wing pour Géricault, c'est plutôt vers la gauche, prudomisme et tout ça. Oui. C'était un peu avant Marx, que Marx écrit ce livre magnifique sur la philosophie économie de 1840, je crois, c'était ça, l'essai philosophique économique de 1840, je crois que c'était ça. Et là, il avait expliqué la notion de alienation.
L'aliénation,
oui. Aliénation.
Ah oui, mais là, Gérald, il y a des études de sociologie que nous n'avons pas fait. Alors que vous avez un bagage, John, qui est assez impressionnant. Donc, vous partiez sur l'engagement davantage. Tu évoquais Picasso. Oui, Gérald, encore.
Je vais continuer parce qu'on aura aussi un développement.
Le peintre,
je cite toujours John Salter, notre invité du jour. Le peintre doit être engagé, donc, doit retrouver sa place comme guerrier, comme défenseur de la beauté de son environnement. C'est une forme d'humanisme. Il doit célébrer ses peuples, ses bêtes et ses paysages. Il doit dompter la cruauté et l'ignorance, tout par la transcendance du naturel qui est son art. Il doit chercher son inspiration dans la nature et non pas dans les tendances. Donc refus des modes, de tout ça. Le naturalisme, le sens du dessin, du motif. Voilà, là-dessus mon CV. Tout ce que j'ai appris dans ma vie d'artiste, inutile de faire une liste ennuyeuse de mes diplômes et des façons par lesquelles j'ai gagné mon pain, voire bibliographie et exposition pour plus d'informations. Ça, c'est le site.
Oui.
Et alors, ce goût pour l'histoire, pour la sociologie, pour la politique, pour l'actualité, pour l'humanisme, eh ben, on le voit dès qu'on parcourt un de vos tableaux. Eh ben, on le
allez, constate
à chaque centimètre carré.
Cite-en un.
Mais il y a toujours un grand poison dans le monde d'art. Hein. C'est l'idée que l'artiste est séparé du monde.
Dans sa tour d'ivoire.
Il est dans sa petite tour d'ivoire. Ah,
ouais.
Et rien à voir avec le nastiness,
le vulgum pecus.
Oui, exactement. Et, mais là, l'artiste se tue.
Ouais.
Parce qu'il se coupe de tout ce qui est la vérité.
Mm-hmm.
C'est comme ces parents qui ne veulent pas que les enfants vu le nude. Ils ont fermé une exposition il n'y a pas longtemps parce que les parents...
parce qu'il
y avait
Nude.
Ils
croient qu'ils préservent l'innocence des enfants. Mais l'innocence des enfants, c'est l'innocence des animaux. Il y a son sexe, il y a son corps, il y a son intellect, il y a tout ça. Essaye de faire semblant que partie n'existe pas, ça détruit son innocence. Il doit apprendre à accommoder de tout ça, de vivre avec tout ça, plutôt que de le couper.
Il y a une obsession en plus hypocrite, pudibonde, puritaniste,
oui.
Dans un mélange en plus par ailleurs de pornographie permanente dans les médias pour vendre tout et n'importe quoi.
C'est la maladie américaine.
C'est ça. Qui a envahi quand même pas mal le monde, avec les fameux réseaux sociaux.
Hein. Le grand
il y avait Oscar Wilde qui avait dit que l'Amérique, c'est la seule nation qui est passée de la barbarité... Barbarie. Jusqu'à la décadence, sans passer par une phase de civilisation.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Oscar Wilde est toujours méchant.
J'avais fait le portrait d'un jeune romantique, d'ailleurs, dans votre site. C'est qui, ce jeune romantique? Son visage me disait quelque chose. Dans les petits formats, il y a portrait d'un jeune romantique.
Ah, oui,
j'ai reconnu son visage, et c'était qui?
La jeune romantique.
C'était pas Oscar Wilde?
Non. Mais
il a un visage connu.
Ah, on reconnaît des gens, hein. Moi j'ai reconnu Sarkozy, Le
Pen. Voilà, la vulgarité.
C'est possible, c'est connu parce que j'ai utilisé beaucoup de coupeurs de magazines et
ça.
Tout ça pour faire mes dessins. Et ce petit garçon-là, ah oui, c'était le fils de qui
il est passé à un people.
De toute façon, les tableaux de
John Salter... C'était une grande famille, le monde de l'art et tout ça, donc... Et c'était le petit dernier de cette famille, donc... Oui.
Vos tableaux fourmillent de citations, de parodies. Alors, au lieu du radeau de la Méduse, on parlait de Géricault, c'est le radeau de la finance. C'est un triptyque. Il y a le poids de la finance. On reconnaît cette grande sculpture hyperréaliste de Ron Mueck, l'artiste australien qui fait de l'hyperréalisme, qui avait fait ce mélancolique, un gros personnage tête rasée qui se tient la tête comme tout mélancolique qui se respecte. Et John Salter le dispatch, le poids de la finance, etc. Il le glisse dans des tableaux. Il y a un tableau qui s'appelle La Valse de Valse. En ce moment, je ne sais pas comment La Valse va finir, mais La Valse continue, visiblement, mais à Barcelone.
Oui.
Donc, il n'hésite pas à représenter Marine Le Pen, Poutine. On les reconnaît tous, évidemment, grâce à sa maîtrise du dessin et du réalisme et du naturalisme. Donc, c'est intéressant.
Et les couleurs, Gérald.
La palette est vraiment très étrange. On a une palette, moi, que je trouve acidulée, vraiment provocatrice. Les thèmes sont provocateurs.
Oui.
La manière de représenter les corps est parfois provocatrice et la palette est très provocatrice.
Oui, c'est contre l'idée de l'art doit être flou.
Du bon goût et du...
d'être de bon goût.
C'est très acidulé, même Kokoschka n'aurait peut-être pas osé faire ça.
Il y avait cette idée d'une certaine sérendipité, je ne sais pas si ça mot existe.
Oui, sérendipité, oui.
Une certaine sérendipité qui arrive quand on fait chplouch,
ouais.
Et c'est... c'est comme c'est beau.
Ouais.
Mais il n'y a pas de travail dedans. Ça peut être par un monkey. Non, pourquoi?
Fait un par singe. Un singe.
Oui.
Gérald, on parlait de. Vous parliez même à l'instant, John, de sexe. On peut le dire, les pubis, les phallus, enfin je ne sais comment nommer, les attributs génitaux sont très présents.
Bien,
voilà, c'est ça, Dex. Voilà,
tout simplement.
Oui, voilà, exactly. Donc oui, c'est très présent. Hein, c'est très souvent. Voilà, c'est ça.
En anglais.
Parfait.
Oui.
Donc c'est très présent. Hein,
mais pas toujours. Je suis sur Printemps arabe.
Oui,
par exemple, en athée, il y a le Printemps arabe, on voit Kadhafi au premier plan. Il y a des tableaux sur la Syrie, Il y a tous les thèmes de l'actualité qui sont traités. Un tableau qui s'appelle « Grâce à l'industrie pharmaceutique internationale » avec des corps mourants dans toutes les positions.
Ah, donc une forme d'ironie aussi, c'est ça ?
D'artistes italiens, des Titiens ou des Véronèses, dont je reconnais la position du corps d'ailleurs, mais quel tableau ? Il faudrait chercher. Chaque tableau se lit...
Je regarde le...
Il y a Hope avec Obama qui a créé un petit peu d'espoir à un moment.
En haut à droite, parmi.
Ça, c'est une citation, ça, de je ne sais plus qui. Hein. Narcisse, c'est peut-être Narcisse de Poussin. Non ?
Non, ça, c'était un commentaire sur les réactions pharmaceutiques, choses comme l'AIDS, le SIDA et tout ça. Mm-hmm. Donc, que comme ils ne font rien.
Ouais.
Surtout dans les pays africains et tout ça, où personne ne peut afforder.
Oui, c'est pas rentable de soigner le paludisme, on peut le soigner depuis 30 ans, mais ça ne rapporte pas d'argent.
Oui.
Gérald, que penses-tu des mots d'Harry Bellet, critique au monde John, on manque ce que vous dites. Vous êtes en train. Attention, les amis, on manque là, ça ne passe pas. Bon, alors moi je vais lire une seconde, je vais lire ce que Harry Bellet écrivait dans un article du Monde, un article pour le Salon de Montrouge, la 50e édition. C'était en quelle année ça ? C'était en 2011. Harry Bellet écrivait concernant John Salter, des tableaux étonnants, mêlant des références à l'histoire de l'art et à l'histoire tout court, une peinture politique, ironique, cocasse parfois, dans le sens où la pratiquait un Clovis Trouille, poétique souvent, fraîche toujours. Ils sont bons tous ces adjectifs, effectivement, politique, ironique, cocasse, poétique et frais. Oui, c'est ça, votre peinture.
Ah oui,
Gérard, tu trouves ? John, oui. Êtes-vous d'accord également ?
D'accord.
Ce sont même des adjectifs que vous avez suggérés, que vous avez soufflés à Harry Bellet, le critique du Monde. Oui,
mais ça, c'était un critique que j'ai reçu quand j'étais à Montrouge.
Pour le Salon Montrouge, effectivement, pour la 50e édition en 2011. Oui. Donc oui, on parlait de l'ironie, j'ai bondi à l'instant, parce que tu parlais des corps mourants grâce à l'industrie pharmaceutique, c'est ça ? Je ne sais plus quel était le titre même. Et donc oui, forme d'ironie assez terrible, puisqu'on voit des corps qui ne sont pas du tout sains et bien portants.
Moi j'ai une question, est-ce que vous n'avez pas peur de faire une peinture qui soit trop littéraire et qui devienne difficile d'accès dans son sens, tellement c'est référencé, tellement le discours est là, l'engagement, la politique?
Ça c'est pas le problème. Si on est trop concentré sur la qualité littéraire... Donc, on commence à perdre les couleurs, on commence à perdre le dessin. On est dans une situation où ça devient plutôt un dessin comique.
On quitte le domaine de la peinture,
oui.
Et de l'allégorie, oui. Et de la storia.
Quand j'étais étudiant, ils avaient très peur de la peinture littéraire.
Ouais. Bah oui, c'était la bête noire.
Oui. Mais moi... Maintenant, je viens d'aimer des gens comme Bouguereau.
Oui.
Et aussi...
Pompiers.
Oui.
Cabanel.
Des pompiers, des maîtres, des vrais maîtres techniques. Et il y avait un peu de sentiment victorien, peut dire, qui abîme un peu, mais quand on le voit en termes... hors de la littérature, c'est des compositions magnifiques.
Ils ont été réhabilités, Orsay.
Oui.
C'était normal qu'ils aient leur part à côté des impressionnistes, des avant-gardes,
des
novateurs.
Oui, un autre, là, qu'est-ce qu'il s'appelle
Il me semble qu'il a eu également une exposition dernièrement au Musée Fabre.
Oui, Gustave Moreau.
Ah, Gustave Moreau, symbolisme, non ? Je ne sais pas.
Le père de symbolisme.
C'est un grand maître qui a formé Matisse, qui a formé toute une génération de peintres.
Redon et tout ça.
Odilon Redon.
Ça, et l'impressionnisme, c'était le début du déclin pour moi.
D'accord. Vous avez vraiment une position très classique, voire hyper classique.
Hyper classique, mais il pensait qu'il fait le progrès.
Oui.
Mais ce qu'ils ont fait, c'est comme des scientifiques, ils singeaient les scientifiques, ils dépêchaient la peinture en morceaux, l'abstrait, les coloristes,
le pointillisme,
l'autisme. Et pour moi, la peinture, c'est toujours holistique. Ça doit compléter de tout. L'abstraction, c'est la structure d'une peinture.
Elle y est. Même quand on fait de la figuration, il y a de l'abstraction chez un Bouguereau, par exemple.
Oui.
Ou la Vénus de Cabanel.
Un grand abstrait. Quand on regarde en ces termes-là. Et pour le couleur, c'est toujours là. engagement, c'est qui colle tout, qui est le forme. Et c'est pas comme le conceptualisme qui a des petites idées que il balance ici, il balance là pour rien faire. Mais je recommence les peintures quand j'ai pris la retraite en 2005 parce que j'ai vu un retourne, un détournement de cette idée que tu dois être vide. Et
minimaliste
et tout ça. Et cette idée
interroger.
De l'artiste flou qui... Oui.
Qui interroge la question de...
Mais je me rappelle, même à l'époque, quand j'étais étudiant, il dit, oh, les derniers Velázquez, superbe. Oh, les dernières sculptures de Michel-Ange, superbe. Ils étaient flous. Parce qu'ils ne pouvaient plus voir comme il faut.
Et les derniers Monet.
Oui. Il n'y avait pas des lunettes.
C'est ça. Il y a du vrai là-dedans. Et les Titiens qui peignent avec les doigts, et la cataracte de Monet, qui invente l'abstraction, dont sont par les Américains, avec John Mitchell et tous les autres.
Oui, mais les fleurs de Monet, là, qu'est-ce qu'ils appellent ça?
Les nymphéas,
oui.
Et les ponts japonais, où ça part tout en... ça se délite.
Il y a tout le petit palais, il y avait toute une partie là, ennuyant.
Alors,
c'est un avantage d'être
restons sur les fins
chers auditrices, chers auditeurs, vous n'êtes pas obligés d'adhérer aux théories esthétiques de notre invité.
Mais...
Et non plus nous, d'ailleurs.
Le pire, c'est les dernières phases de Matisse. Quand il découpe le papier comme des petits gosses.
Ça vous plaît pas trop, ça non plus. Vous trouvez ça un peu naïf, un peu mauvais.
Un peu naïf, oui.
Trop facile.
Peut-être aurez-vous tout de même.
Pourtant, dessiné dans la couleur directement avec une paire de ciseaux. Bon, moi, la chapelle de Vence, personnellement, en plus, le côté catholique, un peu.
Auditeur,
vieux catholique,
peut-être
ne me plaît pas trop.
Aurez-vous tout de même envie d'aller voir ce qu'expose actuellement John Salter.
Après des discours aussi provocateurs,
Ça commence ce soir à la salle Molière. Mais alors, est-ce que vous pourriez aller quelques minutes de fin d'émission? Pourriez-vous, John, je ne sais pas, évoquer peut-être une ou deux œuvres que vous avez accrochées hier? Vous nous avez dit tout à l'heure. Pourriez-vous comme ça,
que des dessins.
Ce ne sont que des dessins. Un peu de couleur? Non,
aquarelle,
non, pas de dessin pur, graphique, crayon.
Non, c'est cette technique mixte plutôt. C'est aquarelle, encre de Chine, encre sépia, crayon. C'est
ce qu'on appelle des techniques graphiques en fait, mais qui peuvent être
toutes les techniques graphiques. Voilà. Pas de pastel.
Non, oh là là, le pastel, qu'est-ce que c'est dur et c'est ingrat. Alors, il n'y a que deux gars pour faire des beaux pastels.
Oui.
Est-ce que vous avez quelques titres à nous donner comme ça pour
les il y a un grand dessin au milieu en haut qui fait hommage à Michel-Ange.
Ah.
Et le sous-titre, c'est Cupidon sème la pagaille, la bataille de Cassina.
D'accord.
La bataille de Cassina, ce n'est pas la bataille de Cassino. C'était une bataille à la fin du XIVe siècle quand les Pisans sont attaqués à...
Mantoue? Non. Ferrare? Mantoue? Les Pisans attaquent qui? Les Romains? Non, les Florentins?
Les Florentins, oui, Florentin. C'est ça. Donc, l'armée florentine était campée à côté d'une rivière. Il faisait très chaud, donc ils se déshabillaient. Et ils se mettent à baigner. À ce moment-là, les Pisans ont attaqué.
Ah, les salauds.
Finalement, les Florentins ont gagné.
Ils ont noyé les Pisans dans l'eau. Et
donc, l'autre partie de cette histoire est qu'ils voulaient faire un concours entre Léonard et Michel-Ange.
Oui.
Donc, ils donnaient deux sujets. La bataille de Cassina à Michel-Ange, et à forget le nombre de batailles pour Léonard qui était plutôt cavalerie, parce qu'il aimait les chevaux. Michel-Ange aimait les jeunes hommes nus. Donc, ils ont donné ces deux sujets. Tout ce qui reste, c'est une copie d'une partie du carton de Michel-Ange. On n'a rien vu de ce que fait Leonardo, mais c'est les baigneurs, j'espère que c'est... C'est une copie par un homme de l'époque. Mais le grand carton était très célèbre à l'époque, mais ça disparaît parce que les dealers, ils sont, comme aujourd'hui, ils ont dépissé en petits morceaux pour envoyer plus grande et plus cher, quoi.
C'est
donc,
ça.
Auditeur, il est 15h, ce n'est pas le début du blues des Canucks que vous entendez, c'est plutôt la fin de Spectaculaire, émission 174. Nous touchons la fin, oui, vous êtes en train d'évoquer, donc ça commence aujourd'hui ou ça a commencé hier? Le vernissage est ce soir, tu as dit,
non,
Gérald.
Non, c'est tout à l'heure, ils ont accroché ce matin, je crois.
Hier, oui.
Oui, c'est le dernier accroché hier, aujourd'hui c'est les étrangers.
Voilà.
Donc ce soir c'est le vernissage.
Alors attention, ça ne dure que 4 jours, je vais vous donner les horaires.
C'est parce très bref.
Ouais, ça, il faut pas rater le coche.
Ce jeudi 11,
jours, c'est pas beaucoup.
Au
c'est
dimanche,
pas très long.
Au dimanche 14, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Palais de Bondy, quai de Bondy, sur la Saône, tout le monde connaît, hein, c'est bon.
Aussi.
Il y a un hommage aussi à Hubert Munier. Hubert Munier, exploration artistique. Il y a un hommage à lui.
Oui. Gérald, tu coupes Elena qui nous indiquait l'adresse, c'est ça. C'est au 18.
18 quai de Bondy.
Bon, merci Elena.
Comme ça. Saint-Paul, c'est ça.
L'ancien conservatoire de musique, là, le Palais de Bondy.
Donc, vernissage public tout à l'heure à 18h jusqu'à 21h. L'ouverture au public, c'est du jeudi 11 au vendredi 12 octobre, de 12h à 18h. Le samedi, donc voilà, samedi de 13 octobre de 11h à 21h.
Ah, c'est bien.
Et le dimanche 14 octobre de 10h à 16h.
Y a-t-il quelques publications? Est-ce que non, ce sont si on souhaite acquérir les œuvres.
Oui, il y aura un catalogue en général. Moi, j'ai acheté celui de l'année dernière parce qu'il y avait des très très bonnes choses. Il y a un bon panel de dessinateurs en général lyonnais, mais pas seulement. Ils viennent de l'étranger.
Je suppose qu'il peut y avoir peut-être un numéro de téléphone et un site. On indiquera tout ça. De toute façon, on a donné l'adresse 18 quai de Bondy, c'est-à-dire à les salles.
C'est
la salle Molière.
Oui, c'est assez grand.
C'est,
hein.
c'est le quartier Saint-Paul.
Donc salon de dessin contemporain.
Deuxième étage.
Oui, deuxième étage.
Si on prend le sens. On tape sur le 2.
J'aurais dû voir les affiches dans les rues. Hein. Lyon, Art Paper 2018, Salon de dessin contemporain, 10-14 octobre.
Bon. Gérald, nous n'avons pas tout dit, mais ce que je propose, hein, j'aime bien faire cela assez régulièrement. John, vous reviendrez? Parce que je crois qu'il nous manque un peu le hiatus. Quoi, y a-t-il des choses à dire pour les années 70 à 2005, jusqu'à votre retraite? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, vous ne produisez plus. Il y a un léger retour en 90, peut-être, quand vous voyez le
forme de réalisme. Oui, j'ai commencé en deux petites peintures à cette époque.
Mais c'est vraiment à la retraite que vous remettez au pinceau.
Oui.
On en reparlera. Vous avez une autre exposition prévue, peut-être plus tard, 2019, des accrochages quelque part? Non, pas encore. Est-ce que vous avez des rendez-vous prévus, John?
Pour ce soir?
Pour prochainement, pour 2019 peut-être,
dans cette
année. 2020 éventuellement.
Vous
reviendrez.
On ne sait jamais.
Vous reviendrez. Il me semble que pour clore cette émission, vous l'aviez prévu, c'est très bien. John, vous ne regrettez rien. C'est ça.
Exactement.
Également, donc nous allons entendre Édith Piaf le chanter. Je crois que nous avons tout dit. 15h03, il n'y a pas de blues des Canucks aujourd'hui. C'est pour ça que nous nous permettons de déborder un tout petit peu. Pascal, et merci pour ces 3 minutes que tu nous accordes. La semaine prochaine, émission 175, invité. Pas encore. Nous trouverons quelqu'un, Gérald et moi. D'ici là, restez à l'écoute des bandes continues, puis des programmes de Radio Canut. Mayday à venir tout à l'heure à 18h, émission numéro 4-5, je crois. Ce sont les tout débuts de cette émission. Rappelez-vous qu'en Spectaculaire en 2013, on était également à la 3e, 4e, 5e émission. Et puis Canu Info à 19h. Et puis voilà, nous quittons avec ces mots d'Edith Piaf, que ce soit vous, John, ou nous, ou Elena peut-être, ou Gérald. Non, hein, nous ne regrettons rien. Merci beaucoup, John. Allez donc voir cette exposition.
Bon vernissage, bonne exposition.
Pas de générique de fin d'émission, on se quitte avec Edith Piaf. Merci les amis, au revoir.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Radio Canu 102.2. On écoutait dans l'ordre Jacques Bertin, qui nous interprétait en 1967.